tous. Je voudrais ce matin partager un texte du livre de la Genèse. Allez, est-ce que je peux solliciter Isabelle pour le lire à haute voix? Tu peux lire ce qui est écrit, mais j'aime bien l'entendre à haute voix. Je te laisse, c'est le chapitre 4, du verset 1 au verset 16. Alors, lis-le assez fort avec ta voix. Ah, ça arrive. Voilà. Amen. Merci Isabelle. Depuis quelques semaines, même quelques mois, je suis assez interpellé par le livre de la Genèse tout à nouveau. C'est vous dire si le livre de la Genèse, je suis vraiment souvent, c'est que pour la préparation de cette prédication, j'ai eu besoin que de 4 pages, puisque les premières pages du livre de la Genèse dans ma Bible sont volantes. Donc, voilà, j'avais à cœur de partager un épisode du livre de la Genèse qui est assez particulier et qui nous fait le récit de cet épisode entre Caïn et Abel, mais aussi entre Adam et Ève. Alors, on est confronté aux premiers parents et à la première fratrie. C'est vraiment le commencement de l'humanité, Genèse, c'est le livre des commencements. Et il y a un verset que j'ai beaucoup cité ces derniers mois et qui se trouve dans la Genèse au chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère. Et c'est un verset que j'ai souvent cité tout simplement parce que c'est un des versets que l'on travaille souvent lorsque nous faisons une préparation au mariage et que nous rencontrons un couple qui désire faire alliance. Donc, ce texte de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, c'est un texte fondamental. Il n'y a pas d'alliance, et on le verra, il n'y a pas de révélation sans qu'il y ait une coupure. Se couper, c'est dans la Bible et dans la pensée de Dieu, se séparer, c'est indispensable pour advenir ou pour devenir. C'est quasiment un principe fondamental, éternel. Il ne peut pas y avoir de devenir sans coupure. Là, les dames sont toutes d'accord avec moi, surtout les mamans. Les maris peuvent se dire, je ne suis pas certain, est-ce qu'il faut se couper? Mais les dames et les mamans le savent, si on ne coupe pas le cordon ombilical, ça devient très gênant pour la suite de la vie. Quoique certains disent que dans certaines cultures, il y a des mamans qui ne coupent le cordon qu'environ vers 30 ou 40 ans. Mais c'est une image, il est bien coupé à la naissance. C'est dire que dans l'Écriture, à partir du livre de la Genèse, l'exil est une séparation indispensable pour être porteur de révélation. La révélation, en hébreu, ça se dit « il galout ».« Il galout ». Et en fait, c'est la même racine que l'exil, « galout ». C'est-à-dire que la révélation, l'exil est à l'intérieur de la révélation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une révélation, il galoute, il faut qu'il y ait un exil. Il faut qu'il y ait une séparation. Il faut que le peuple juif quitte l'Égypte pour pouvoir se trouver au Sinaï, recevoir la révélation d'un Dieu vivant. Mais j'ai envie de dire que toutes les révélations adressées à l'homme, à la femme, se fait dans une démarche d'exil d'un homme et d'une femme qui est prêt ou prête à se lancer dans une course vers l'avant. Et alors, il ne s'agit pas de renier ses racines, mais de refuser de pousser à l'ombre tutélaire de son parent. J'aime beaucoup cette phrase-là. Quand je l'ai tapée sur mon ordinateur, j'étais fier de moi. Mais je le dis parce que dans la forêt, vous savez, vous regardez les grands arbres magnifiques. Je faisais visiter le centre de Cardudo à des professionnels qui étaient éventuellement intéressés. Il y a un arbre, il y a un charme Et les charmes en France sont tous malades, morts, etc. Mais à Cœur du Dos, il y a un charme. Il fait environ 4 mètres de circonférence, 4 à 5 mètres. Il est d'une beauté, cet arbre. Et quand je le regarde, je suis toujours émerveillé. L'hiver, il perd toutes ses feuilles, bien évidemment. Mais dès que le printemps arrive, il a une frondaison d'une superficie. J'aimerais que Michel le voie, lui qui aime les beaux arbres, parce que vraiment, c'est un des plus beaux arbres que je connaisse. Et à chaque fois que je fais visiter, pour vendre le bâtiment, je montre l'arbre, en me disant, ça va bien marcher quand même. Et je dis, c'est un arbre magnifique. Mais vous savez quoi? À l'ombre de cet arbre, il n'y a aucun arbre qui pousse. Et c'est une bonne chose. Et quand dans la forêt, il y a un arbre qui essaye de pousser à l'ombre d'un très grand arbre, il finit par mourir. Et ça parle de la question de la coupure. Il s'agit de couper le lien, de se séparer, de partir dans une forme d'exil pour pouvoir advenir et devenir. Et quand je regarde cette assemblée, je vois des visages qui sont partis en exil, loin de leurs racines, loin de leur pays, pour devenir, pour advenir et faire en sorte que ce qu'elles sont ou ce qu'ils sont deviennent véritablement. Et en fait, même dans un couple, le fait de dire « l'homme quittera son père et sa mère », l'alliance du couple ne peut pas exister si ça se passe à l'intérieur de la structure familiale d'origine. Il faut couper le lien. Alors, les récits de l'Ancien Testament et les rites juifs évoquent ce devoir de coupure, rupture de lieu, rupture de lien, séparation du cordon ombilical pour devenir et être. Et dans ce récit-là, nous sommes confrontés à cette question-là. C'est sans doute une thématique qu'on retrouve dans l'histoire de la première fratrie de l'humanité, mais également dans la relation parentale d'Ève et de ses enfants. Caïn, Abel, Seth. Il y a là un enjeu, l'enjeu que les psychologues ou les pédopsychiatres soulignent comme fondamental. La nécessité pour l'enfant, comme pour le parent, de découvrir et d'accepter le principe de l'altérité. Pour être autre, il faut couper, partir, s'éloigner, faire ses choix. Vivre le lien tout en se découvrant autre, découvrir et accepter le principe de cette altérité, faute d'entrer dans une relation qui serait mortifère. Une relation qui pourrait tourner de manière négative. Couper pour ne pas, tel qu'un, devenir coupable. Là aussi, je trouvais bien la formule. Couper pour ne pas être coupable. Ah, est-ce que je peux... J'ai pris un café viennois, parce que j'étais un peu gourmand, cette semaine avec une amie. Je peux juste dire une petite chose. Et puis on parlait de notre... C'était avec Christiane. On était ensemble, puis elle me parlait de Joachim. Vous n'avez pas connu Joachim. C'est le mari de Christiane pour un grand nombre. Et elle me parlait justement du fait de quitter, de se séparer. Elle me disait, mais je pensais, j'ai toujours pensé au moment où il est monté sur le bateau pour quitter le Maroc. Et qu'est-ce qu'il a pu penser quand il a quitté d'une manière définitive le pays de sa naissance ? Alors qu'il ne l'avait pas choisi. Et j'ai envie de dire, nombre d'entre vous ont vécu cela, mais la question c'était qu'est-ce que Joachim, que certains ont connu et aimé, pouvait penser sur ce bateau qui l'emmenait loin de son pays et de ses racines. J'aime à penser, ayant connu l'homme, que certainement il y avait un arrachement. Il surveillait des plantations d'orangers, citronniers, etc., là-bas, et tout à coup, c'était lui le déraciné. Et je me disais, mais connaissant l'homme, je pense qu'il a commencé à regarder devant. Même si c'est dur de se déraciner, de partir et de lâcher prise. Et il a reconstruit. Il a reconstruit sa vie, il a redémarré quelque chose. Et il plantait des orangers, des citronniers. Et quand la première fois que je l'ai rencontré dans sa maison avec Christiane, j'ai appris qu'en fait, il était à la retraite, mais maître de chais de Châteauneuf-du-Pape. C'est un petit vin qui pousse dans le sud. Il est advenu. Ça veut dire que quelque part, se couper, se séparer, c'est rendre possible le fait de devenir et d'advenir. Ah ! Quand je lisais ce passage, j'ai trouvé des choses assez étonnantes que je n'avais jamais réalisées, comme quoi 40 ans de lecture de l'Écriture, ça permet toujours de découvrir des choses nouvelles. La première chose, c'est que j'ai réalisé que le premier Adam est entré dans un modèle moderne qu'on appelle l'homme work alcoolique. Alcoolique. C'est un terme anglais qui dit être bourreau du travail ou d'être quelqu'un qui ne pense qu'au boulot. Alors on se dit, tiens, son existence est circonscrite à son seul rapport au travail. Relisez la Genèse, vous verrez, il y a eu ce texte de Dieu, ou cette parole de Dieu au chapitre 2, verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Alors je dis, c'était un homme dont la vie, finalement, n'a été définie que par son rapport au travail. Cherchez autre chose concernant la vie d'Adam. Adam, son nom, terre rouge, terre originelle, condamnée à se travailler à la sueur de son front. Il est tiré de la terre, il retourne à la terre, et il est dit, mais tu vas travailler cette terre maintenant, d'où tu viens, à la sueur de son front. Alors, je ne sais pas si c'était une manière pour Dieu de faire peser sur Adam un poids qui l'obligerait à se travailler lui-même. La terre rouge qui travaille la terre pour se nourrir. Peut-être une manière pour Adam d'être confronté au travers du travail à sa rencontre avec lui-même. Bon, là, j'extrapole, mais j'aime beaucoup cette pensée-là, parce que je vois beaucoup d'hommes qui travaillent la terre et qui disent « le travail de la terre nous renvoie, nous laisse une disponibilité aussi », et Michel en parle souvent, lui qui a travaillé la terre pendant des années, ça laisse l'esprit libre de cheminer, etc. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, mais je pense que pour Adam, son rapport à la terre, c'était la seule chose qui le définissait. Mais le constat de la Genèse, c'est qu'Adam, alors c'est la traduction d'André Chouraki, mais je la cite, même si elle peut vous choquer, il est dit qu'Adam pénètre la vivante, Ève, puisque c'est le nom de Ève, la vivante, il pénètre la vivante, mais il est totalement ignoré par Ève. Une fois qu'il a donné, je dirais, fait cet acte procréateur, on ne sait rien, on ne dit rien d'Adam. Il disparaît. C'est-à-dire que Ève, une fois qu'elle est enceinte, il est dit... J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Et le Père, il est où? On n'en entend pas parler. C'est-à-dire que dans le positionnement d'Ève, elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Ève enfante Abel ensuite, mais on ne sait pas où est Adam. On ne le voit pas en tant que Père. Il disparaît totalement. Il réapparaît au verset 24 comme celui qui pénètre Ève pour qu'elle enfante Seth. Et après, il est au champ, à Pôle emploi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il disparaît. Alors je me disais, est-ce que Ève serait la première mère célibataire de l'histoire. Est-ce que là, pour le coup, on a une structure monoparentale, mais il semble que Adam ne soit pas au centre de cette structure familiale. Alors, dans sa manière de définir Caïn, Ève dit « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu ». Adam est absent de son discours. C'est Dieu qui est à l'origine de cette naissance. Il y a un rabbin qui dira que ce fils acquis n'est pas loin d'être considéré par sa mère comme un demi-dieu. C'est-à-dire qu'elle le met au monde, mais celui qui a favorisé ou rendu possible, c'est Dieu. Adam disparaît du carnet de famille, du livret de famille. Un enfant acquis par rêve auprès d'Adonai. C'est d'ailleurs la traduction qui est faite, puisque le tétragramme est lu Adonai, c'est-à-dire par le Seigneur. Alors que quand le second enfant, Abel, arrive, il arrive comme un supplément. Relisez la Genèse, vous verrez que la naissance d'Abel, c'est « j'ai mis mon fils Katini ou Kaini, Caïn, au monde avec l'aide de l'Éternel, bon, puis ensuite j'ai accouché d'Abel ». Bon, Abel, on a l'impression qu'il vient alors, comme un frère pour Caïn, mais à peine comme un enfant pour Ève et Adam. Il n'y a aucun lien qui soit évoqué. Il est un frère plutôt qu'un fils, et son nom, alors que le nom de Caïn, c'est celui qui a été mis au monde avec l'aide de l'Éternel, il a été acquis avec l'Éternel. Abel, vous savez la traduction d'Abel ? Non ? Buée, vapeur. Ah, ça, c'est quelque chose de consistant. Hein. On sent qu'il compte pour sa mère. Hein. Ouais, c'est le petit, là. C'est buée, vapeur. Vous savez, les noms dans la Bible, ils sont assez signifiants, vous savez. Alors ça, on peut dire que pour Ève, Abel, il comptait peu. Il était un petit peu transparent comme une buée, comme une vapeur. Inexistant, très peu considéré, et on pourrait presque dire que sa venue au monde, c'est le prélude de ce qui va se passer après. Il y en a un qui est le tout, qui est considéré comme tout, acquis avec l'Éternel, puis l'autre, c'est très peu, pour ne pas dire rien. Il est considéré que c'est vers l'âge de 8 ans que les enfants commencent à élaborer une estime de soi qui leur est propre. L'estime de soi est toujours corrélée dans les études qui sont faites, y compris au niveau scientifique, hein, avec la conscience de soi. Il faut avoir conscience de soi pour commencer à travailler sur son estime de soi. C'est alors l'accès, la conscience de soi, une représentation de soi qu'on peut avoir au niveau psychologique, global de soi-même. Le regard que les enfants portent sur la personne qu'ils sont constitue la base de leur future estime de soi. Regardez comment le petit berger qu'est David dans la Bible, oublié par son père, lui aussi, très transparent, David, pour Isaïe, est devenu un homme partagé entre assurance de sa valeur, je suis quelqu'un de formidable, mais aussi fragilité et doute qu'il rongeait en permanence. On le voit bien. L'estime de soi, pour David, c'était quelque chose de très fragile. Alors peut-être que parmi nous, on s'est construit aussi comme ça, du fait de notre rapport parental, de la manière dont les constructions se sont faites et que l'on se trouve... Il y a des moments géniaux, et puis des moments où on se dit « ouais, je ne vaux pas grand-chose ». Et peut-être que là, il y a aussi, comme dans la vie d'Abel et de Caïn, des enjeux où le Saint-Esprit, j'ai beaucoup aimé le rappel de Francine dans sa prière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a été répondu pour nous conduire dans toute la vérité, pas simplement la vérité doctrinale. De savoir qui est Dieu, qui est l'homme, qu'est-ce que l'Église. Non, la vérité dont il est question, c'est aussi la vérité par rapport à moi-même. Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui est fragile ? Qu'est-ce qui est fort ? J'avais pensé à un moment donné, ce matin, aborder la question des dons. Quels sont mes dons ? Mes dons naturels, mes dons spirituels. Mais le Saint-Esprit est là pour me dire qui je suis et comment les fragilités qui sont les miennes peuvent être travaillés, peut-être transformé et voire même, je dirais, glorifier Dieu par l'œuvre qu'il veut accomplir en nous. Ah oui, c'est ce que Dieu veut faire. Alors là, on est face à un fils, Caïn, qui est tout, fils de Dieu, acquis par Dieu, et l'autre qui est une buée, le presque rien. Celui qui est entretenu dans l'idée de la toute-puissance s'arrogera le droit d'éradiquer celui qui compte pas beaucoup, Abel. Son nom, son identité, transmise par sa mère, semble lui en donner la légitimité. Moi, je suis quand même acquis par Dieu, écoutez. Et je ne suis pas loin de penser que notre conception d'un ministère dans l'Église peuvent parfois nous mettre en position identique. Moi, je suis légitime comme Caïn en tant que ministère pour dire ce que tu dois, ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de Caïn, vous savez, dans les ministères. Un peu d'humilité pour savoir que nous ne sommes que des serviteurs et prions pour que les Caïn de ce monde qui se croient, j'aime beaucoup le mot, c'est des leaders, voilà, des leaders, ne fassent pas des dégâts sur les Abel qui sont dans le royaume de Dieu. Vraiment, je demande vraiment pardon en tant que là aussi serviteur du mal qui a pu être fait dans les vies à ce niveau-là. Donc son nom, son identité transmise par sa mère à Caïn semble lui donner cette légitimité. Ça semble aussi prédestiné que la mort des deux fils d'Élimélec et de Noémie, vous savez, dans le livre de Ruth, un de mes livres favoris, quand on donne des noms, on définit une identité, eux, ils s'appelaient maladifs et souffreteux. Qui est surpris qu'ils ne franchissent même pas la barre du premier chapitre du livre de Ruth. Ils meurent très rapidement. Ils épousent des Moabites, d'accord. Mais ils meurent. Quand on s'appelle maladif et souffreteux, honnêtement, l'espérance de vie est assez courte. Hein. Donc voilà. Là, Caïn, il est appelé aussi de cette manière-là, avec une perspective. Lorsque nous lisons les versets qui nous dressent le profil, j'ai envie de dire presque le CV des deux frères. Il est dit... Et c'est Abel, alors j'aime bien la traduction d'André Chouraki qui est très axée sur l'hébreu, et c'est Abel, un pâtre d'ovin, Caïn était un serviteur de la glèbe. Parce que le glébeux, c'est la traduction que André Chouraki utilise pour nommer Adam. Adam, c'est terre rouge. Donc lui, il dit terre rouge, c'est de la glèbe, c'est de la terre, c'est de la glaise peut-être. Et donc, Abel est un pâtre d'ovin, c'est-à-dire un berger qui s'occupe de moutons. Caïn était un serviteur de la glèbe. En fait, en hébreu, c'est Abad Adama. C'est-à-dire qu'il était assujetti à la terre. Ça nous renvoie à la parole de Dieu sur Adam. Tu travailleras la terre, tu transpireras, etc. Eh bien... je dirais que Caïn, il est défini au niveau de son CV, quand il a déposé son CV à Pôle emploi, après, il dit, votre métier, c'est quoi ? Ben moi, serviteur de la terre, assujetti à la terre. Moi, mon boulot, c'est de dépendre de cette terre-là. Mais je suis vraiment assujetti à elle. Ça veut dire comme quoi l'identité de Caïn a défini aussi ce qui s'est passé par rapport aux offrandes. Vous vous rappelez ? Hein, l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel. Et au bout des jours, c'est le terme qui est dit, alors là on a au bout de quelque temps, mais en fait dans le terme hébreu, c'est au bout des jours, il y a de la part des deux frères le besoin d'être reconnu par Dieu. Parce qu'il y a toujours dans la vie d'un homme la nécessité, ou quand je dis d'un homme, d'un être humain, la nécessité de savoir comment Dieu me regarde. Alors au bout des jours, il y a toujours un moment... au bout de mes jours, où j'ai besoin de savoir quel est le regard de Dieu sur moi. Et les deux frères vont, au bout des jours, faire le nécessaire pour savoir s'ils sont agréés, acceptés, de connaître leurs valeurs. Nous pouvons fonctionner dans le temps, assumer et suer, mais il y a toujours un moment où l'on veut connaître en quoi Dieu nous reconnaît, comment il nous voit. Alors vient ce temps incompréhensible à la première vue de l'acceptation d'une offrande et de la non-considération de l'une. Et puis je pense que, je ne sais pas, moi quand j'ai lu ces textes-là quand j'avais 16-17 ans, j'avais une estime de moi-même très fragile, c'est clair que le regard de Dieu sur l'offrande de Caïn, je dis, le gars, il sue sang et eau pour tirer des produits de la terre, et en fait, excusez-moi, les bergers, à côté, c'est des petits joueurs, hein, ils regardent les moutons en train de paître. Tu parles d'un travail. Moi, je sais que ce n'est pas tout à fait ça. Mais entre celui qui retourne la terre, qui plante, qui sème, qui nettoie le terrain, qui désherbe, etc., et le berger qui, au petit matin, sort avec son troupeau et dit « Allez brouter, faites votre boulot !» Excusez-moi, mais il n'y a quand même pas photo. Eh bien, moi, j'avais l'impression que ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste, là, le refus de l'offrande de Caïn. Alors, comment comprendre cette injustice? Comment l'accepter? Parce qu'on est là, on se dit « Oui, mais Dieu est juste. Donc, s'il est juste, il y a bien une raison. Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que Caïn est refusé et Abel, lui, est accepté? Alors, est-ce que c'est parce que c'est Dieu et donc on doit se soumettre et ne pas réfléchir? Est-ce que parce que c'est lui qui agit, donc on se tait et on reçoit? C'est un peu comme ça qu'on fait parfois. Hein. Quand on ne comprend pas, on dit « Bon, on lui fait confiance. » Mais en même temps, à l'intérieur, on se dit « Ouais, mais moi, j'aurais été à la place de Caïn. Ça aurait un petit peu rué dans les brancards. » Caïn apporte les fruits de ses efforts et de son travail. Un peu comme un bon élève cherche à recevoir l'approbation de ce qu'il a fait, non pas parce que le résultat de ce qu'il fait est juste, mais parce qu'il a beaucoup travaillé. Le fait que j'ai beaucoup travaillé, ça mérite au moins. Je me rappelle quand j'ai repris mes études à 30 ans, j'ai passé mon bac de comptabilité, j'avais 30 ans, et de gestion, et premier cours... j'étais avec les élèves du lycée Notre-Dame-de-la-Paix. Je suis rentré dans la classe et j'ai fait un cours de français. Ça allait. Deuxième cours dans lequel je suis rentré, c'était cours de maths à 30 ans avec les maths modernes. Et là, le prof, un jeune prof qui était plus jeune que moi, a dit « Bon, aujourd'hui, on fait un contrôle pour vérifier où vous en êtes. » Je dis « Ça va être vu. Vu où j'en suis. » Alors, j'ai pris les énoncés, c'était des équations à deux inconnues, totalement inconnues pour moi, hein, vraiment, je ne les connaissais pas. Et donc, j'ai écrit, et puis j'ai joué avec les x, les moins, les plus, sans savoir quelles étaient les règles. Et une semaine après, j'ai eu le résultat, j'avais 2 sur 20. Et le prof, avec un petit sourire, m'a regardé en me disant, vous savez, c'est pour le papier, l'encre. Hein. Je dis, d'accord. Caïn, il est un peu comme ça. Il se dit, le fait que j'ai travaillé, ça mérite une bonne note quand même. Peu importe si c'est bon, juste ou pas juste, mais le fait que j'ai travaillé. L'effort n'est pas ce qui qualifie la justesse de la chose, ni la qualité ou la vérité de l'action. J'ai été à l'expo du 150e anniversaire des impressionnistes. Le 14 avril 1874, il y avait un salon depuis des années à Paris, qui était le salon de Paris. Vous aviez 2200 tableaux qui étaient exposés, mais alors, tableaux académiques. Pour être accepté, il fallait correspondre aux règles de l'académisme. Et il y avait un jury qui disait « toi tu peux pas ». Et puis les peintres, il y a certains peintres modernes de l'époque qui disaient « mais on ne peut pas se soumettre à ça, l'art c'est autre chose ». Et donc le 14 avril 1874, il y a des artistes indépendants qui ont dit « on va faire notre propre exposition ». Et ils l'ont fait dans les anciens studios du photographe Nadar. Et là, ça a été... un tollé des spécialistes qui disent « Mais c'est quoi cet art rétrograde ?» Il faut dire, il y avait des petits peintres qui barbouillaient, ils s'appelaient Monet, Pissarro, Cézanne, etc. Personne ne les connaissait. « Mais c'est quoi cette peinture de sauvage ?» etc. Et puis, il y a Émile Zola qui est allé voir. Il était journaliste, il est allé voir le salon officiel et il a dit « Mais c'est décourageant. » Il a dit, en parcourant les allées, qu'il était affligé par l'absence de créativité, la pauvreté des productions, et dit « mais il n'y a rien à garder de tout ça ». Et il est allé voir l'expo des indépendants, et là, il a découvert Monet, Cézanne, Sisley, Berthe Morisot, Degas, Caillebotte, et là, il a pris en considération ce qu'il avait sous les yeux. Rappelez-vous, la parole de la Genèse, c'est Dieu prit en considération le sacrifice ou l'offrande d'Abel, mais il ne prit pas en considération. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas jugé en disant « c'est nul, tu... » il a été moins sévère que Zola. Il a dit simplement « je ne prends pas en considération ». D'ailleurs, dans l'hébreu, c'est « il ne l'a pas regardé ». Il regarda l'offrande d'Abel, mais il ne regarda pas. « Sha, c'est « regarder », il ne regarda pas. Parce que derrière, ce qui lui importait, en fait, c'était la motivation qu'il y avait derrière. Pourquoi je fais cette offrande? Si je devais mettre en parallèle un texte du Nouveau Testament avec ces deux offrandes de Caïn et Abel, ah tiens, c'est pour une personne du dernier rang. Quel serait le texte du Nouveau Testament qu'on pourrait mettre en parallèle avec, avec l'offrande de Caïn et Abel? Ah ben voilà, tu vois! Aïe, 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 vous êtes épatés, là, quand même. Eh, qui l'avait? Qui l'avait? Mais on se chicane souvent ensemble, tous les deux. Parce qu'il semblerait que quelqu'un est plus smart que Marie. Mais si on fait un parallèle entre Caïn et Abel, on est dans le même registre dans le Nouveau Testament que Marthe et Marie, à savoir qu'est-ce qui est la motivation de l'un et de l'autre. Dans le texte de l'évangile de Luc au chapitre 10, lorsque Jésus est accueilli chez Marthe et Marie, en fait, il y en a une qui s'agite et veut bien faire, mais surtout mettre en avant ses efforts et son savoir-faire. Elle veut le montrer. « Eh, regarde ce que je fais quand même !» et dis à ma sœur de faire la même chose que moi. Ouais. Est-ce que parfois dans notre vie, on peut être aussi dans un rapport avec Dieu de cette nature-là? Je veux lui montrer ce que je suis, ce que je vaux. Ce que je fais. L'une s'agite et l'autre, elle est au pied de Christ. Ça veut dire que quelque part, Marthe, elle fait le sacrifice fondé sur le don d'elle-même. Regarde ce que je transpire pour t'accueillir, te donner à manger à toi, éventuellement aux disciples, etc. Et l'autre compte sur la grâce. Elle se met au niveau et à l'écoute de Christ. Et en fait, dans le rapport entre Caïn et Abel, on est sur la même logique. Caïn apporte les produits qui sont sortis grâce à son travail. C'est-à-dire que quelque part, sa motivation est sujette à caution. Il est la seconde génération qui est sortie du jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il a entendu certainement de la part de ses parents, reçu les paroles de Dieu consécutives à la rupture du lien entre le Créateur et ses parents. Une rupture dont les paroles continuent de retentir dans l'esprit de la famille. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté ce qu'on a lu tout à l'heure, tu travailleras le sol qui sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Il te produira des épines, des ronces, à la sueur de ton visage, etc. L'offrande de Caïn, est-ce qu'elle n'est pas fondée sur l'orgueil? En fait, celui de retourner à Dieu ses efforts comme proclamation de sa supériorité qui annulerait la condamnation de Dieu au jardin d'Éden. Regarde, malgré tes paroles, regarde ce que j'ai pu faire quand même. Eh oh! T'as vu la taille des poireaux? Et parfois, dans nos vies, est-ce que nous ne sommes pas à revendiquer les efforts que nous avons faits? Et à dire, tu vois, Seigneur? Alors, est-ce que ce n'est pas non plus, par exemple, la leçon que nous trouvons dans le livre de Job? Job, est-ce que ce n'est pas une leçon que Dieu a construite afin qu'il réalise que ses sacrifices, sa bonne conduite, sa propre justice n'étaient rien si la grâce de Dieu ne lui était pas accordée. Est-ce que nous n'avons pas aussi à nous méfier de notre tentation d'offrir tel qu'un les fruits de nos efforts, la satisfaction du travail que nous avons réalisé, jusqu'à ce que Dieu nous amène à prendre conscience, à accepter que tout nous est donné par grâce, maintenant, ici, par Jésus-Christ? Ça n'empêche pas de travailler. Dieu ne dit pas à Marthe, t'es nul, arrête de bosser. Non, non, il dit, mais il y a des priorités. Et le travail découle de la relation que tu as avec moi. Abel, la buée, la vapeur, celui qui semble si peu à côté de son frère, si travailleur, si actif, Que fait-il sinon donner les aînés de ses ovins et leur graisse ? Vous avez lu ? Il a donné les aînés, c'est-à-dire les premiers-nés de son troupeau. Mais dans ce geste, il intègre, avant que toute forme de culte et de sacrifice ne soit établie, c'est la deuxième génération. Le culte juif, etc., n'est pas du tout mis en place. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il intègre, avant que toute forme de culte et de sacrifice soit établie, que c'est le sacrifice d'un animal qui va couvrir sa honte, le faire accepter par un Dieu juste et saint. Ben, on peut se dire, mais comment il a compris ? Moïse n'était pas encore là, la Torah n'était pas là, les sacrificateurs, comment il a saisi ça ? Eh bien, d'abord, en reproduisant ce que Dieu avait fait. Parce que le premier à avoir sacrifié un animal pour couvrir la honte de ses parents, avant de les faire quitter le jardin d'Éden, c'était Dieu. Adam et Ève, on a honte, on est nus, le péché nous fait prendre conscience de certaines choses, et Dieu les a recouverts de peaux d'animaux. Il avait bien fallu les tuer, ces animaux. Et Abel, il a tout simplement imité Dieu en disant, eh bien voilà, j'offre ces animaux. Mais il y a autre chose. Et c'est Ève qui le lui a fait comprendre. Parce qu'en fait, en considérant aussi que pour Ève, l'aîné était dans la famille ce qui était le plus précieux, Caïn, le plus précieux dans notre famille, c'est le fils aîné. Pas de chance pour les cadets. Hein. Moi, je suis l'aîné, donc je ne suis pas sûr que ça ait été un cadeau. Mais bon, je suis l'aîné. Et Abel, il a dit, le plus important, en fait, c'est le premier-né. Alors, si le premier-né est le plus précieux et le plus important, c'est ce que Ève lui a fait comprendre, au lieu de s'enfermer dans un sentiment d'injustice, de victimisation, parce que ça, on est bon pour cela, on est bon pour se plaindre du mal qu'on nous a fait, du regard qu'on n'a pas eu, des gestes, etc. Eh bien, au lieu de s'enfermer là-dedans, il fait quelque chose, il prend les premiers nés de son troupeau et leur graisse. Dans l'Ancien Testament, la graisse, c'est ce qu'il y a de... C'est du bon gras. Hein. Non, enfin, c'est... Oui. Souvent, on enlève le gras. Là, on le donnait, parce que c'était le meilleur. Ouais. Et il l'a offert à Dieu. La jalousie, la souffrance, l'incompréhension, voilà ce qui provoque chez Caïn l'affaissement de ses faces. Quand il est dit, à un moment donné, qu'il fut irrité, son visage fut abattu. En hébreu, c'est « tes faces, ses faces sont tombées ». Ses faces, c'est-à-dire tout ce qui, à l'intérieur de lui, est l'expression sur son visage de ses sentiments, donc de ses faces, de colère, d'incompréhension, de souffrance. Pourquoi tes faces sont-elles tombées, se sont affaissées ? Mais pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas à sa souffrance, bien au contraire. Il lui montre un chemin de guérison. Il lui dit, pourquoi cela te brûle-t-il ? Moi, j'aime bien cette expression. Pourquoi ça brûle ? Pourquoi ça, comme dirait Knock, ça te chatouille ou ça te gratouille ? Il y a des choses qui me chatouillent et qui me gratouillent. Ça me fait même plus que ça. Pourquoi cela te brûle-t-il ? Pourquoi tes faces sont-elles tombées ? N'est-ce pas que tu t'améliores à portée et que tu ne t'améliores pas à l'ouverture ? La faute est tapie, à toi sa passion, toi gouverne-la. Alors c'est un peu une traduction difficile à comprendre, mais Dieu invite Caïn à ne pas s'installer dans un statut de victime, à prendre le chemin de la responsabilité assumée, de la liberté de choisir et de vivre. C'est ce qu'il fait avec nous. Il ne veut pas que face à quand il ne regarde pas ce que nous, on pense être important, des choses qu'on se dit, mais c'était juste que je sois là, c'était juste que je fasse là, etc. Vous voyez, comme je suis malheureux, personne ne me comprend. Je suis à Kevin, je suis responsable d'une église, ils sont même pas, ils prennent pas conscience de tout ce que je fais pour eux. Hein ? Je joue bien, hein ? Normalement, je suis nommé au César, là. Je pars sur la croisette là, cette semaine. En fait, Dieu dit à Caïn, si tu t'améliores, ne pourrais-tu pas te relever ? Ah ! Or, il y a quand même quelque chose qui, dans ce texte-là, est assez étonnant. C'est qu'en fait, dans le texte, il est dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, si tu acceptes d'agir, de te lever, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais en fait, quand on est sur ce texte-là, il y a quelque chose qui... Et c'est un rabbin que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup lu ses livres ces derniers temps, qui souligne une erreur de grammaticale. Il dit « la faute est tapis ». En hébreu, « tapis » est au féminin. Mais, donc le verbe « tapis »,« rovets », est au masculin plutôt. Et il faudrait traduire « à l'ouverture, tapis la faute ». En fait, il y a une erreur entre le sujet et le verbe. Le verbe est au masculin et la faute est au féminin. Et en fait, le rabbin, c'est Delphine Horviller, qui évoque ça, dit « mais en fait, la question de ce verset, c'est que l'ouverture est le sujet du verbe « tapis ». C'est l'ouverture qui est tapis et non pas la faute ». Et souvent, nous, on voit ça, bah, la faute est tapis, on imagine le péché qui est là, prêt à sauter sur nous. Non, c'est l'ouverture. Et Delphine Horviller, dans un de ses livres, explique que c'est l'ouverture qui est tapis et qu'en fait, si on lit attentivement deux versets à un chapitre d'intervalle, on lit ceci. « Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari ». Mais il dominera sur toi. Je relis. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dans le chapitre suivant, concertant Cain, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Et dans la lecture hébraïque, beaucoup disent en fait... L'ouverture dont il est question aussi, ce n'est pas la porte, c'est la matrice qui a donné naissance à Cain. En fait, il est né d'Ève. Et Ève a les mêmes paroles au chapitre 3 que Cain au chapitre 4. L'histoire bégaye et Cain semble reproduire le scénario de vie de sa mère avec cette promesse. Mais toi, tu le domineras. C'est-à-dire que même la parole qui s'adresse à Ève n'est pas une parole définitive de soumission de l'homme sur la femme. Bon, là, normalement, j'avais écrit « Amen de la part de l'Assemblée », je vais le rayer. On garde l'idée, hein, quand même. Et puis, Cain, c'est la même chose. Cain, il a la possibilité de se relever. Or, j'ai presque envie de dire, enfin, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est des commentateurs juifs, en fait, il reproduit le scénario de sa mère Ève. C'est-à-dire, elle aussi, elle laisse cette matrice, lui, il est né, elle lui a donné une identité, et finalement, il repart avec l'identité que sa mère lui a donnée, notamment d'être quelqu'un qui porte ses désirs et ses difficultés en lui-même, comme Ève, et qui va continuer à les reproduire. D'ailleurs, il est dit plus tard dans le texte qu'il sera errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de vivre différemment, comme nous. Mais on peut aussi continuer à entretenir une identité de victime. Oh, c'est pas normal qu'Abel, etc. Puis ça explique pourquoi j'ai été méchant avec lui, etc., etc. On peut vivre avec ce statut de victime. Et dit, ben, tu seras errant et vagabond. Et en hébreu, c'est nad. Et à la fin, verset 16, c'est pour ça que j'ai lu le verset 16 jusqu'à la fin, il est dit, puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Tu seras nad et il part à Nod. N-A-D, N-O-D. En sachant que les voyelles sont aléatoires en hébreu. Hein, mais en tout cas, il demeure et il s'installe dans son errance et son vagabondage parce qu'il refuse de relever sa face en recevant le pardon de Dieu, en reconstruisant sa relation avec Dieu. Alors, il est en fait dans la reproduction de ce que Ève a reçu comme parole pour elle-même. et ce qu'elle n'a pas vécu, puisque derrière, elle va faire un troisième, la dernière mention d'Adam, en fait, c'est un reproducteur, Adam. En dehors de ça, et puis du travail de la terre, on n'a pas beaucoup d'indications. Mais il va à nouveau pénétrer Ève et donner naissance à Seth. Et en fait, dans ce récit-là, le troisième fils sera celui qui portera, Ève dira, Dieu a remplacé, parce que Caïn a tué Abel. Là aussi, on s'aperçoit que Ève, elle joue à un jeu dangereux. Il m'est arrivé de connaître une patiente qui disait, moi je m'appelle, je crois qu'elle s'appelait Christine, je ne vais pas plus loin, je m'appelle Christine parce que ma mère avait une fille, la deuxième fille de la fratrie, qui est morte, 5-6 ans. Elle s'appelait Christine. Et donc, elle a voulu une autre fille, qu'elle a appelée Christine. Et donc, finalement, moi, je n'existe pas. Je remplace ma sœur. Et en fait, Ève donnera, affectera ce rôle-là à Seth, remplacer Abel. Vous avez Abin, Caïn qui... mélange les prénoms là. Caïn qui, en fait, reproduit ce que vit sa mère, à savoir être avec le refus de reconstruire, de bâtir, de faire son chemin, de couper et de revivre, eh bien, à Seth, elle dit, il va remplacer Abel. Fort heureusement, la généalogie dit que Seth sera celui qui commencera à adorer Dieu avec ses descendants. Alors, je voulais juste évoquer avec vous ce texte-là qui nous renvoie à nos propres histoires, à notre propre parcours. Et au début, je disais que nous sommes tous des pèlerins et que nous avons à quitter et à couper pour devenir. Et je prie véritablement que chacun d'entre nous puissions être des hommes et des femmes qui coupions avec le passé pour devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va terminer peut-être avec quelques annonces temps de culte, puisque la